Effrayé. Bon week-end.
Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
Il est 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, l'État menace de mettre son veto à la cession de Biogarant à un industriel indien. Le marché des voitures électriques stoppé dans sa marche accélérée. Et puis l'Europe veut faire naître des géants, notamment dans les télécoms, pour concurrencer les Chinois et les Américains. C'est le laboratoire qui produit un tiers des génériques en France. Biogarant, 900 médicaments dans son portefeuille, 8600 personnes employées, la plupart en sous-traitance. Cette filiale de Servier est en vente. Quatre candidats sont en lice, dont deux producteurs indiens, eux-mêmes spécialistes des génériques. Un marché du médicament qui se dessine clairement désormais en deux modèles distincts, Rémi Pfister.
Pas assez rentable ni stratégique, en vendant sa filiale de produits génériques, Servier souhaite accélérer dans l'innovation. Anticancéreux, antidiabétique de nouvelle génération, depuis plusieurs années, les grands laboratoires français repositionnent leur offre et l'âge du lest, explique l'économiste de la santé, Nathalie Coutinet.
Novartis l'a fait avec Sandoz, Sanofi l'a annoncé avec sa branche Doliprane. Voilà, on voit bien qu'il y a deux logiques dans les productions de médicaments. Il y a une logique innovation-rentabilité et puis il y a une logique médicaments à bas prix, mais avec des économies d'échelle et de l'externalisation de la sous-traitance. Les firmes choisissent entre ces deux modèles. Elles font plus les deux.
Pour l'économiste de la santé Frédéric Bizard, cette vente est une stratégie risquée. Biogarant représente près de 900 références de médicaments et dispose d'un réseau de distribution européen sans équivalent.
Biogarant est un laboratoire plein d'avenir parce que les médicaments qui ont été lancés il y a une bonne dizaine d'années, donc qui vont tomber dans le domaine public, ont une marge supérieure. Et il y a une capacité de générer des économies d'ici 2030 de l'ordre de 5 à 7 milliards. C'est un risque pour la France de ne pas avoir de moyens de maîtriser ses dépenses par l'extension du marché des génériques.
Le ministère de l'économie le sait, le dossier est brûlant, d'autant que le groupe fait travailler une quarantaine de producteurs en France.
Les explications de Rémi Pfister. La révolution écologique connaît un coup d'arrêt dans l'automobile. Les ventes de voitures électriques s'effondrent de plus de 11% au mois de mars sur l'ensemble du continent. Éric Kioch, cela s'explique notamment par la fin ou voire la disparition des aides publiques.
Oui, c'est un coup de frein sec, hein, particulièrement en Allemagne où les ventes de véhicules électriques ont dégringolé de près de 29%. Selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens, c'est la conséquence directe de la suppression en décembre des incitations financières de Berlin pour favoriser l'acquisition de voitures plus écologiques. Même mouvement dans les pays nordiques. Et en Italie, le recul est encore plus impressionnant. Moins 34,4%. La France, pour l'instant, semble épargnée. Les immatriculations vertes progressent même de 11% en mars, portées par le dispositif de leasing social avec 50 000 commandes enregistrées au début d'année. Mais le nouveau bonus écologique qui passe donc de 5 000 à 4 000 euros en vigueur depuis le premier trimestre et la suppression de l'aide de 1 000 euros à destination des entreprises n'ont pas encore produit leur impact, donc prudence pour les prochains mois. Au premier trimestre, les ventes de voitures vertes dans l'Union européenne ont progressé au total de 3,8%, loin des standards à deux chiffres observés l'année dernière. L'électrique représente désormais 13% de part de marché contre 14,6% sur l'ensemble de l'année de 2023. Première victime de ce ralentissement, Volkswagen, moins 9% de ventes sur un an, et Stellantis, moins 12,6% en mars. La dégringolade est encore plus dur pour Tesla, avec une chute de plus de 30% de ses ventes au mois de mars. Des chiffres qui amènent donc à penser que le marché de l'électrique arrive à un plateau tant redouté par les constructeurs.
Éric Kioch en direct. On a rarement autant parlé de rémunération dans les entreprises. C'est le cas avec cette prise de position de Michelin. Aucun salarié n'est payé au SMIC. D'ailleurs, Florent Ménégo, le président de Michelin, est avec nous à 8h15 de salaire. On a aussi parlé de celui des patrons du CAC 40, celui de Florent Ménégo justement, et d'un million d'euros, bien loin des 36,5 de Carlos Tavares, validé en Assemblée Générale de Stellantis cette semaine. Alors pour bien comprendre Céline Cajoulis, il y a en fait deux visions qui s'opposent et qui illustrent la diversité de rémunération chez les grands chefs d'entreprise.
Et il y a d'abord les patrons que l'on appelle worldwide, c'est-à-dire à la tête de géants dans des secteurs où la concurrence est rude, ceux qui, un peu comme des joueurs de football, ont une capacité presque unique pour développer leurs entreprises et qui sont régulièrement chassés pour partir, notamment aux États-Unis où les salaires sont plus élevés. Leur rémunération est donc en conséquence, c'est le cas de Carlos Tavares. A l'opposé, il y a les dirigeants comme Florent Ménégo de Michelin qui choisissent volontairement de limiter leur salaire à un niveau plus acceptable socialement. Florent Ménégo touche donc 1 100 000 euros de fixe par an et a un variable de maximum 150% de son fixe. C'est recrute aussi le salaire le plus élevé de son groupe, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque Frédéric Oudéa avait pris ses fonctions à la Société Générale, il avait volontairement capé son salaire, mais il était bien inférieur à ceux touchés par les stars des salles de marché. Enfin, il y a un dernier cas, celui des dirigeants d'entreprises publiques. Depuis 2012, en France, leur rémunération brute est limitée à 450 000 euros par an. C'est le cas de Jean-Pierre Farandou à la SNCF, ou de Jean Castex à la RATP, et de Luc Rémont chez EDF, qui n'est pas le salaire le plus élevé de son groupe, car ses directeurs ont une part variable, ce qui n'est pas son cas.
Céline Cajoli, la promesse sera tenue, les 2 milliards de baisses d'impôts pour les ménages entrera bien en vigueur, prévue normalement pour l'année 2025. C'est ce qu'a confirmé hier Gabriel Attal sur BFM TV, mais il a précisé également que cette baisse d'impôts serait conditionnée à une mesure d'économie équivalente. Le Premier ministre a également confirmé son souhait de réformer une nouvelle fois l'assurance chômage. Il privilégie un durcissement des conditions d'affiliation. C'est le temps qu'il faut avoir travaillé pour toucher le chômage, actuellement de 6 mois au cours des 24 derniers. C'est un chantier difficile que lancent les Européens, une nouvelle impulsion pour plus d'union après un sommet hier sur la compétitivité du continent. Car si le marché unique né il y a plus de 30 ans a fait naître des géants dans l'aéronautique ou l'automobile, mais pas encore dans la finance, l'énergie ou encore dans les télécoms. Aux États-Unis ou en Chine, on compte seulement quelques opérateurs. Une idée à étudier, creuser, même si le constat n'est pas si sombre, explique l'économiste Yves Gassot.
Tout ce qui peut contribuer à l'homogénéisation des télécommunications en Europe est une bonne chose. Il y a sans doute des progrès à faire. En même temps, il ne faut pas avoir une vision trop négative. Des pays comme la France, l'Espagne vont vite dans le déploiement de la fibre. Les consommateurs ont quand même le bénéfice de prix relativement modérés. Vous avez des grands opérateurs comme Deutsche Telekom, Telefonica ou Orange qui font partie des grands opérateurs au niveau mondial. Et puis vous avez aussi des nouveaux entrants, Free qui devient aujourd'hui un groupe multinational. Donc il ne faut pas non plus crier à la catastrophe en Europe.
L'économiste Yves Gassot, les marchés financiers, la réaction après des explosions en Iran, la crainte d'une escalade et d'un embrasement régional avec l'Iran. Le prix du pétrole est en forte hausse, l'indice américain WTI et la référence européenne, le baril de Brent de la mer du Nord, sont actuellement en hausse à plus 2%. En ce moment, le Nikkei est dans le rouge, moins 2,39%. À New York, c'était avant cette nouvelle escalade à la clôture. Le Dow Jones et le Nasdaq dans le positif. Le CAC a commencé la saison des résultats en finissant lui aussi en hausse, plus 0,52% à 8023 points. Dans une minute, la météo.